Alors, un très bon dimanche tous et à chacun. Si vous êtes ici pour la première fois, vous nous visitez, alors la plus cordiale des bienvenues, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens est précisément le chapitre 2. Et ce matin, nous allons considérer les versets 8 à 10. Qui nous serviront de texte de base pour le message de ce matin que j'ai intitulé « Vous serez gracieux ». C'est Dieu qui parle, car je suis gracieux. Ce n'est pas dans la parole de Dieu, mais si vous regardez comment est-ce que Dieu est gracieux, vous allez voir qu'il y a un lien entre ce que Dieu est et ce que nous devrions être. Alors, il y a plus de 250 ans, un trafiquant d'esclaves noirs fut pris dans une violente tempête où son navire risquait de couler. Et pris de panique, il cria à Dieu, lui promettant de le servir fidèlement s'il le délivrerait. Alors Dieu exauça sa prière et cet homme, quittant la mer pour de bon, devint un pasteur, un prédicateur de l'Évangile et amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Son nom, peut-être vous l'avez deviné, c'est John Newton. Et vers la fin de sa vie, il a dit ceci. « Ma mémoire m'a presque quitté, mais je me rappelle de deux choses. Que je suis un grand pécheur et que Jésus-Christ est un grand sauveur. » Mais John Newton est mieux connu pour l'un des chants les plus populaires dans le milieu protestant anglais, le « Amazing Grace », en français « Grâce infinie », qu'il a écrit vers 1760. Et ce chant existe aujourd'hui en plusieurs versions. Et voici la première strophe de ce chant. Il dit ceci, « Grâce infini de notre Dieu, qu'un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a trouvé. » Et dans l'une des strophes d'une version plus moderne, on lit ceci, « Mes chaînes ont été enlevées. Jésus, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule. » Comme de la pluie, amour immense, grâce infinie. Et le compositeur d'un autre chant, qu'on trouve dans le chant de Victoire, pour ceux qui se rappellent, sans doute inspiré par le Amazing Grace, a dit ceci, « Ta grâce infinie, coulant nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. » Et ça, c'est l'image que je veux que nous retenions pour ce matin. La grâce de Dieu comme un fleuve immense, coulant, continuellement, nuit et jour, librement, débordante. Cette grâce dont parle Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, ce que nous allons lire en ce moment. Et je vais lire à partir du verset 1 pour le contexte. Alors, Éphésiens 2, verset 1, l'apôtre Paul va dire ceci aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous tous aussi, Paul dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et le verset 8 jusqu'au verset 10, notre texte pour ce matin. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et voilà notre texte. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous cette merveilleuse grâce de Dieu sous trois aspects. Dans un premier temps, nous avons le constat de la grâce. Le constat de la grâce. Notre texte dit ceci, c'est par la grâce de Dieu, que vous êtes sauvés. Quel beau mot. Pour moi, c'est le plus beau mot dans le dictionnaire, dans la langue française, le mot grâce. Ce beau mot que le Petit Larousse définit comme étant une faveur que l'on fait sans y être obligé, une faveur imméritée. Et quel bel attribut pour décrire notre Dieu. Vous savez, Dieu est gracieux, et dans Exode 22-27, le texte nous dit ceci, le contexte est un pauvre qui va crier vers Dieu, et Dieu va dire ceci, « S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis quoi gracieux. » Dans Exode 33-19, Dieu va dire ceci à Moïse, « Je fais grâce à qui je fais grâce. » Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Psaume 103, verset 8, va dire ceci, « L'Éternel est miséricordieux et gracieux. » Notre version, Louis II, va dire « compatissant. » Mais dans le texte original, le mot là est gracieux. Dieu est miséricordieux et gracieux. Et j'aimerais vous donner ce matin quelques exemples où nous voyons la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée, coulant librement, continuellement, débordante à travers l'histoire et envers les individus tels que Jacob. Si vous connaissez un peu l'histoire de Jacob, vous allez voir que c'était un homme, comme quelqu'un a bien dit, il pouvait se cacher derrière un tire-bouchon. Et Dieu choisit cet homme pour être l'un des patriarches d'Israël, le peuple élu, au lieu de son frère Ésaü. Vous avez aussi le jeune David choisi pour être le roi d'Israël, au lieu de ses frères aînés, quand Samuel est allé pour justement rendre un roi d'Israël. Il a été frappé justement par la grandeur de ses frères. Et pourtant, Dieu choisit le jeune David. Vous avez aussi Salomon, qui a reçu un don extraordinaire de sagesse. L'homme le plus sage que le monde a jamais vécu après Jésus-Christ, que le monde n'a jamais connu plus tôt, pardon. Et il reçoit ce don de grâce, de sagesse, par grâce, malgré le fait que ses parents, David et Bathsheba, auparavant avait été impliqué dans une relation illicite. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous avons le fils prodigue qui s'en va dans un pays lointain et qui va gaspiller justement tout l'argent du père. Et quand il revient repentant, il va recevoir quoi? Un accueil royal au lieu d'être traité comme l'un des esclaves de son père. Nous avons aussi les ouvriers de la 11e heure, dans la parabole, le Seigneur a dit que ces hommes ont été envoyés dans la vigne. Ils ont travaillé une seule heure. Il y a d'autres qui étaient là depuis le matin, qui ont supporté la chaleur de la journée. Et quand le temps est venu pour payer ces hommes-là, ils ont reçu le même salaire que ceux qui étaient là depuis le matin. Vous avez aussi Pierre, qui a eu le privilège extraordinaire de prêcher le premier sermon de l'Église naissante. Et avec des résultats extraordinaires, 3000 âmes sont sauvées. Et pourtant, lui, quelques jours après, il avait renié le Christ. Quelle grâce de la part de Dieu. Et vous avez aussi l'apôtre Paul, un homme qui a été choisi par Dieu pour être un grand apôtre. Et pourtant, avant sa conversion, c'était un homme qui avait persécuté l'Église de Dieu. Et ce matin, vous pouvez aussi mettre votre nom. Si vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, choisi par Dieu pour faire partie de l'Église, l'épouse de Christ, malgré ce que vous étiez avant, comme nous avons entendu ce matin, malgré notre vaine manière de vivre. Qu'est-ce que tous ces exemples nous enseignent? C'est que face à Dieu, il n'y a pas de mérite. Au contraire, si Dieu nous donnerait ce que nous méritions, nous serions tous en enfer. Mais ce matin, gloire à Dieu, sa grâce coule. Sa grâce coule. Comme un fleuve. Immense, continuellement, librement, débordante. Et combien de millions d'individus en bénéficient et en bénéficieront encore. Mais j'aimerais vous parler de la plus grande démonstration de la grâce de Dieu, on le voit dans le salut. Éphésiens 2:8 nous dit ceci, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et c'est exactement ce que les textes que nous avons lus précédemment nous indique. Dans Éphésiens 1 jusqu'à 8, nous lisons ceci, je fais un résumé, que l'homme sans Dieu est mort, spirituellement, par ses offenses et par ses péchés, ce que la Bible déclare. Il est mené et même malmené par sa chair et par le diable, c'est un pécheur. Il est aussi un fils de la rébellion qui mérite la colère de Dieu, qui veut dire souffrir un enfer loin de la face de Dieu. Mais grâce à une intervention d'un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, qui sacrifie son Fils à la croix du Calvaire pour les pécheurs, l'homme en Jésus-Christ est maintenant rendu à la vie. Libéré de l'esclavage du péché, un fils d'adoption qui jouira d'un bonheur éternel dans la présence de Dieu, quelle grâce. Comment est-ce que nous devrions réagir à tout cela, que Dieu est gracieux? J'aimerais vous laisser avec trois exhortations. Dans un premier temps, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Combien la reconnaissance devrait nous caractériser? Et comme la grâce de Dieu, coulant nuit et jour, continuellement, librement, débordante, telle devrait être aussi notre reconnaissance envers Dieu. Éphésiens 5, 20 nous dit ceci, « Rendez, quoi, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Deuxièmement, soyons humbles. Rappelons que nous n'avons rien fait pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et sans elle, ce matin, nous serions comme monsieur et madame tout le monde, aveuglés, encore dans les ténèbres, toujours dans nos péchés, toujours exposés au jugement et la colère de Dieu. Que les paroles de l'apôtre Paul soient les nôtres ce matin. Il va dire dans 1 Corinthiens 15, au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Paul était reconnaissant, mais Paul aussi était humble. Et troisièmement, face à la grâce de Dieu, n'abusons pas de la grâce de Dieu. Psaume 103, 10 nous dit ceci, « Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. » Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? À cause du fait qu'il est gracieux. Même quand il doit nous corriger, Dieu est gracieux dans sa correction. Mais que cela ne soit pas une excuse pour endurcir nos cœurs et vivre une vie qui déplaît à Dieu. Oui, Dieu est gracieux quand il nous corrige pour nos péchés, mais cette grâce dont nous bénéficions a coûté très cher à Dieu et à Jésus-Christ, lui que Dieu n'a pas épargné. Et lui qui, en prenant notre place comme un coupable, n'a pas connu la grâce de Dieu. Au contraire, sur la croix, en subissant le jugement terrible de Dieu, il a été traité selon nos péchés. Il a été puni selon nos iniquités. Ésaïe 53, 5 nous dit ceci, si clairement, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et si Christ a payé si cher pour nous gracier, comment pourrions-nous en abuser que le Seigneur alors nous garde d'un tel péché? Très important. Maintenant, souligné, il y a le constat de la grâce, mais j'aimerais aussi vous parler ce matin de le combat de la grâce. Le combat de la grâce. Éphésiens 2, 10 nous dit ceci, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement qu'à travers le salut, Dieu fait du croyant une nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est un peu comme lors de la première création. Vous allez vous rappeler, quand Dieu a créé l'homme, la parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 1 que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais ces choses ont été perdues lors de la chute à cause du péché. Et ce que Dieu est en faire maintenant, c'est que cette nouvelle création qu'il fait, son ouvrage va retrouver maintenant, progressivement, à travers la sanctification, cette image et cette ressemblance de Dieu. Alors, quand on parle de la grâce de Dieu, dans le domaine de la grâce de Dieu, sa grâce qui coule comme un fleuve, continuellement, librement, débordante, qui caractérise Dieu. Et maintenant, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour retrouver cette image et cette ressemblance. Alors, c'est quoi l'implication? Que nous aussi, nous devrions être caractérisés par le même type de grâce, une grâce qui coule en nous et à travers nous, envers les autres, continuellement, librement et débordante. Et j'aimerais vous dire que pour vous et pour moi, ce sera toujours un combat. Ça va être un combat acharné. Pourquoi? Parce que les ennemis de Dieu et du croyant, le monde, la chair et le diable feront tout pour essayer d'arrêter le cours du fleuve de la grâce. Et à l'instar des barrages que l'on construit pour arrêter le cours d'un fleuve, il y a certains obstacles dans nos vies qui peuvent effectivement arrêter le cours du fleuve de la grâce dans nos vies. Des obstacles tels que la jalousie, obstacles de ressentiment, obstacles d'amertume, obstacles surtout de refus de pardonner. Et nous avons un récit dans Matthieu chapitre 18 où l'apôtre Pierre va s'approcher du Seigneur et il va soulever une des questions du pardon à propos d'un frère qu'il avait péché contre lui. Et vous allez voir que dans les questions de Pierre, il va mettre une barrière, une limite au cours du fleuve de la grâce. Il va dire ceci à Jésus, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? » sera ce jusqu'à. On va arrêter là. Mais le Seigneur Jésus-Christ est un enseignant par excellence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va raconter à Pierre cette histoire d'un maître dont le serviteur lui doit une somme d'argent astronomique. Dans l'argent de nos jours, là, ça vaut 6 millions de dollars. Et face à l'incapacité du serviteur de la repayer et son appel à la clémence, dans un geste magnanime de grâce, le maître va tout annuler. Jésus voulait enseigner à Pierre la nature de la grâce de Dieu. Ce fleuve coulant continuellement, librement, débordante. Et là, il va maintenant continuer son histoire. Jésus n'est pas terminé, parce qu'il voulait aussi montrer à Pierre qu'est-ce qu'il avait dans le cœur. Et il va raconter à Pierre comment ce même serviteur, récemment gracié, agit face à un confrère qui lui doit des peanuts, comme on dit en bon québécois, 16 dollars. Et qui, en face de l'incapacité du confrère à le repayer, et à son appel à la clémence, il va l'étrangler et va le jeter en prison. Jésus voulait enseigner à Pierre la nature du cœur humain. Comment il peut être méchant et tortueux, même chez le croyant. Et quel contraste avec, justement, la vie d'un autre homme de Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament. On aime beaucoup l'histoire de Joseph. Joseph, ce jeune, qui a été haï par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, à des trafiquants d'esclaves pour être amené loin de son pays natal. Et vous allez vous rappeler l'histoire sans doute. L'Éternel est avec Joseph. Il le fait prospérer. Après les épreuves, il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison. Et finalement, Dieu va le faire sortir de là. Il va devenir gouverneur de tous les pays d'Égypte. Mais ce n'est pas fini. Quelques années plus tard, comme Joseph avait prédit à Pharaon dans ses songes, il y a une famine. Et qui va se présenter en Égypte? Mais les frères de Joseph. Il n'y a pas de nourriture en Canaan, où est-ce qu'ils vivent? À cause justement de la sagesse de Joseph, il y a du blé en Égypte. Et les frères viennent justement pour acheter du blé. Et qui est-ce qui rencontre? Joseph. Et Joseph, il reconnaît ses frères, mais les frères ne savent pas que c'est lui, le petit frère qui avait vendu comme esclave. Et quel moment, humainement parlant, favorable pour Joseph de se venger. Il est le gouverneur là, de tout le pays. Il a le pouvoir. Il pouvait faire passer à ses frères un mauvais quart d'heure. Et j'ai omis certains détails, mais lors d'une rencontre, Joseph va révéler sa vraie identité à ses frères. Ils ont la frousse. Mais il va leur dire, approchez-vous de moi. Il leur pardonne. Et bien plus de cela, il va leur envoyer en Canaan. Il va chercher son père et toute leur famille afin qu'ils puissent venir demeurer en Égypte. Et Joseph a dit, vous serez près de moi. Je veux que vous restiez et vous demeuriez près de moi. Humainement parlant, il aurait dit, je ne veux rien savoir de vous autres. Non, il a dit, vous serez près de moi. Et il a dit aussi, je vais vous nourrir. Quelle grâce qu'on voit ici dans la vie de Joseph. Les frères n'ont rien mérité de cela. Mais Joseph, dans sa bonté, dans sa grâce, il a vraiment pardonné. Il a démontré vraiment un geste de grâce envers ses frères. Et ce matin, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre marche de sanctification. Comme je vous dis, c'est un combat. Et vous savez, la prière que nous devrions adresser continuellement à Dieu est celle que nous trouvons dans Psaume 139, versets 23 et 24. Et là, David est conscient de ce combat. Il va dire ceci à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. » Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est une prière, frères et sœurs, qui est très salutaire. Parce que nous avons besoin dans ce combat de la grâce de ne pas avoir d'obstacles dans nos cœurs. Et le Seigneur est capable, par le Saint-Esprit, de nous révéler. Comme il a dit, regarde, vois si j'ai de quoi dans ma vie, si je suis sur une mauvaise voie. Et par ta grâce, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si ce matin, le Seigneur nous révèle quelque chose qui ne va pas, qui est un obstacle, à cette grâce qui devrait couler en nous, à travers nous, librement, continuellement, débordante. Nous avons toujours un recours. 1 Jean 1,9 nous dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce qu'il est gracieux. Et étant pardonné et étant purifié, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Que nous soyons gracieux comme il est gracieux. Que nous pardonnions aux autres comme il nous a pardonné. Alors ce matin, si le Saint-Esprit vous parle, peut-être suite à cette rencontre ce matin, il y aurait des gestes concrets à poser pour que la grâce de Dieu puisse continuer à couler comme un fleuve, continuellement, librement, débordant en nous et à travers nous. Et troisièmement, nous avons le constat de la grâce dans le salut. Nous avons le combat de la grâce dans la sanctification. Et troisièmement, nous avons le contrat de la grâce dans le service. Ce matin, nous qui sommes sauvés, nous sommes tous sans exception, jeunes et vieux, hommes ou femmes, riches ou pauvres, éduqués ou moins éduqués, noirs ou blancs, nous sommes tous dans le domaine de la grâce, nous sommes tous sous contrat. Citez ce texte que nous avons lu ce matin dans Éphésiens 2, l'apôtre nous dit ceci, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et si nous considérons un autre texte, 1 Pierre 4,10 nous démontre de quoi il s'agit exactement. De quoi est-ce que l'apôtre Paul parlait dans Éphésiens 2, mais 1 Pierre 4,10 va nous expliquer cela. Le texte dit ceci, « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les autres le don qu'il a reçu. » Ce don que chacun de nous a reçu gratuitement lors de notre conversion, ce don qui permet à Dieu de nous dire ce matin, vous serez gracieux, car je suis gracieux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la grâce de Dieu coule à travers vous comme un fleuve? Continuellement, librement, débordante envers les autres dans le service à cause du fait que vous avez reçu un don de grâce de Dieu lors de votre conversion. Où sommes-nous comme ce serviteur? Dans la parabole des talents, n'ayant reçu qu'un seul talent, il est allé le cacher dans la terre. Et lorsque son maître lui a demandé de rendre compte, il a trouvé toutes sortes d'excuses pour justifier pourquoi il ne l'avait pas fait valoir. Peut-être ce matin, vous justifiez votre inactivité dans le service en vous disant, « Je ne suis pas aussi doué qu'un tel » ou « Je suis trop vieux » ou « Trop vieille » même « Trop jeune ». Je ne suis pas assez intelligent, ou bien j'ai un handicap. Dieu peut utiliser les autres, mais moi, oubliez ça. Si tel est votre cas, j'aimerais vous encourager avec ce texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens 1, 26-27, qui dit ceci, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, quoi, les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et pour notre encouragement, j'aimerais vous rappeler que Abraham était vieux. Sa femme Sarai était stérile. Moïse bégayait. Gédéon était peureux. Rahab était une prostituée. Matthieu était un traître, travaillait pour les Romains. Pierre était lâche. Thomas doutait. Timothée était trop jeune. Zachée était trop petit. Jean-Baptiste mangeait des bibites. Et Lazare était mort. Et humainement parlant, pour chacun de ces handicapés, c'était game over. Mais non pas pour Dieu. Comme quelqu'un a très bien dit, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qui sont appelés. Et dans Jean chapitre 6, Jésus et ses disciples se trouvent devant une foule affamée. Et qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition? 5 pains et 2 petits poissons. Et entre les mains des disciples, la question c'est, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et entre les mains du Seigneur, cela devient un festin où les gens en mangeaient autant qu'ils en voulurent. Et ce matin, j'aimerais vous inviter de ne pas regarder ce que vous avez, de ne pas regarder à ce que vous êtes, mais à ce que vous pourrez être entre les mains du Seigneur. Henry Varley a dit ceci: le monde a besoin de voir ce que Dieu peut faire avec et à travers l'homme ou la femme qui est totalement consacré à lui. Et D.L. Moody, en entendant ces paroles, s'est dit en lui-même, il n'a pas dit un grand homme, ou bien un homme intelligent, ou un homme habile, mais tout simplement un homme. Et ce jour-là, D.L. Moody s'est résolu, par la grâce de Dieu, à devenir cet homme. Et Dieu a honoré sa décision. Et aujourd'hui, nous connaissons D.L. Moody, qui pourtant n'avait qu'un 5e année du primaire, il écrivait au son, il massacrait l'anglais de la reine, et pourtant on le connaît comme l'un des plus grands évangélistes du 19e siècle, par qui des milliers et des milliers d'âmes sont parvenues au salut grâce à une puissance extraordinaire qui reposait sur son ministère. Et ce matin, notre Cap de la Madeleine, notre Trois-Rivières, notre Québec a besoin de voir ce que Dieu peut faire avec et à travers l'homme ou la femme qui est totalement consacré à lui. Et par la grâce de Dieu, je vous pose une question, je me pose la même question, seriez-vous cet homme, cette femme? Ma prière, c'est que Dieu puisse susciter dans notre Église et dans toutes nos Églises de tels hommes et de telles femmes, de sorte que le Québec entier connaisse un réveil. En terminant, je reviens à ce que nous avons vu au début. Permettez-moi de vous poser une question. Connaissez-vous la grâce de Dieu? Cette grâce qui coule comme un fleuve, continuellement, librement, débordante. Pouvez-vous dire comme John Newton, je suis un grand pécheur, mais je sais que Jésus est un grand sauveur. Et si ce matin, honnêtement, dans le plus profond de votre cœur, vous ne pouvez pas dire cela, je vous invite de devenir repentant à la croix. où Jésus est mort, oui, pour payer la dette du péché, mais il est ressuscité pour que dans sa grâce, Dieu peut pardonner aux pécheurs repentants et pour sa grâce, lui donner la vie éternelle. Et je vous encourage de ne pas attendre d'être dans une tempête de la vie. Ce matin même, tu pouvais accepter le bon don de la grâce de Dieu qui est le salut en Jésus-Christ. Et le beau verset, même pour quelques-uns, c'est le plus beau verset de la Bible, Jean 3,16. Puis on pourrait faire une version comme celle-ci, « Car Dieu m'a tant aimé, qui a donné son Fils unique, afin que, puisque je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. » Et si dans votre cœur, vous faites cette prière et vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, et si vous prenez la décision, par sa grâce, d'être totalement consacré à lui, je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires qui bouleverseraient même notre Église, notre province. Nous avons besoin de tels hommes et de telles femmes de nos jours. Et on prie pour un réveil, mais ça commence à la croix. Ça commence où des gens viennent repentants pour recevoir librement cette grâce de Dieu. Et d'être en retour, justement, des hommes et des femmes que Dieu puisse remplir de son esprit et d'aller avec la puissance de l'Évangile et communiquer cette grâce comme une fleuve qui coule nuit et jour, continuellement, librement, débordante envers les uns et les autres. Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ ce matin, je vous invite, s'il vous plaît, dans une simple prière, vous pouvez l'inviter de venir dans votre vie. Et vous serez sauvés pour l'éternité. Et Dieu fera de vous quelqu'un d'extraordinaire et qui sera aussi pour sa gloire. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, que nous avons chanté ce matin, parle-moi. Et c'est ma prière ce matin que tu nous parles, moi le premier. Tu nous as révélé à travers ta parole que tu es un Dieu qui est gracieux et que tu veux aussi qu'à ton image, nous soyons aussi gracieux. Alors Seigneur, purifie nos cœurs. S'il y a de quoi que ce soit dans mon cœur, dans nos cœurs qui t'offense, qui empêche cette grâce de couler envers les autres, Seigneur, que tu puisses nous le révéler et donne-nous la grâce, Seigneur, de l'abandonner. Et d'être des instruments entre tes mains que tu peux utiliser puissamment, Seigneur, pour justement toucher cette génération perverse et corrompue qui s'en va à la dérive. Oh Seigneur, et si ce matin il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, qui puissent aussi ce matin goûter que l'Éternel est bon, goûter à cette grâce merveilleuse et qui puissent dire oui comme John Newton, j'allais de lieu en lieu errant. J'étais perdu, mais il m'a retrouvé. Mes chaînes ont été enlevées. Jésus, mon Sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme de la pluie. Amour immense, grâce infinie. Et qu'il en soit ainsi ce matin, Seigneur, pour ta gloire. Amen.